Voilà, Monsieur Pierre Delas qui va se mettre à la tribune, président de la Fédération française des maisons et pôles de santé.
Merci de votre accueil. Est-ce qu'il y a plus de médecins ou plus d'administratifs dans la salle ?
Les médecins, vous levez la main, s'il vous plaît.
Et les administratifs ? D'accord, oui, c'est 50-50, ok. C'est pour savoir, parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire entre professionnels que quelquefois, on ne se dit pas avec les autres. Donc je me présente, moi je m'appelle Pierre Dehas, je suis ce qu'on appelle maintenant, je suis un petit producteur de soins local. C'est-à-dire que je fais partie d'une équipe de professionnels sur un territoire. En tout, je suis dans l'Ain, à Pondin. Si vous venez de Paris, que vous allez dans les Alpes, quelquefois vous passez par Pondin, il y a un carrefour autoroutier. Ça se situe à La Louche, pour ceux qui voient ça très loin, entre Lyon et Genève. Et là-bas, j'ai créé une structure qui s'appelle maintenant une maison de santé pluriprofessionnelle. Et c'est à ce titre-là que Pascal Mariotti m'a demandé de venir vous parler des soins primaires. Je vais vous développer un propos qui sera assez bref, mais en trois points. Le premier point, je vais essayer de vous expliquer ce qui est en train de se passer sur le territoire, qu'est-ce qui se passe dans la société civile, qu'est-ce qui bouge en termes de soins primaires. Le deuxième, ce sera, et le politique là-dedans, à quoi il sert, est-ce qu'il sert à quelque chose, est-ce qu'il anticipe, est-ce qu'il pousse, est-ce qu'il soutient, quelle est sa place, entre autres dans la dernière loi. Et puis on viendra ensuite sur le troisième point qui me paraît important, c'est quelles sont les perspectives à développer entre soins primaires et votre secteur, et particulièrement à travers l'article 69 de la loi de modernisation du système de santé. Alors qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Le terrain, il est confronté à un certain nombre de points auxquels vous êtes aussi bien entendu confronté, mais encore peut-être plus spécifique dans ce qu'on appelle les soins primaires. Soins primaires, je précise, c'est la traduction anglaise du primary care, qui veut dire qu'en soins primaires, c'est l'endroit où les patients, quand ils ont un souci, poussent une porte. Donc, dans le soin primaire, vous mettez non seulement les médecins généralistes, mais vous allez mettre aussi les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les infirmiers, les kinés, les diététiciennes, etc. Et tous ces professionnels, les orthophonistes, tous ces professionnels de santé qui travaillent en fait sur un territoire autour d'une patientèle. Et donc ces professionnels, ils sont confrontés à des enjeux. Enjeu qu'on ne connaissait pas il y a 30 ans. J'ai plus de 30 ans d'exercice et je peux vous assurer qu'en une carrière, c'est très très impressionnant de voir comment la santé a bougé. D'abord, le premier élément, c'est que les maladies deviennent chroniques. Il y a 30 ans, quand on voyait un cancéreux, on se disait « passera pas Noël celui-là ». Aujourd'hui, non seulement il passe Noël, mais il tient le coup, il fait parfois même un deuxième cancer, voire un troisième, quand il n'en a pas deux à la fois, ce qui est assez spectaculaire. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de maladies cancéreuses qui deviennent des maladies chroniques. Donc ça change, bien entendu, au niveau du travail. Il y a 30 ans, quand on voyait quelqu'un qui faisait un infarctus, on se disait, celui-là, dans 5 ans, il est plié, il va en faire un deuxième, un troisième terminé. Aujourd'hui, vous faites un infarctus, vous êtes évacué, vous avez un stent et vous avez une espérance de vie qui devient supérieure à si vous n'aviez pas fait l'infarctus. Il y a des jours, on se demande si ça ne vaut pas le coup d'en faire un, parce que vous avez une surveillance après qui est telle que... Sauf que la surveillance, ça veut dire des actes médicaux et une organisation des soins qui est complètement différente d'avant. Donc, maladies qui deviennent chroniques, la population qui vieillit, on a de plus en plus de centenaires. On raconte, je ne sais plus où j'ai entendu ça, qu'à ici le Moulineau, ils ont arrêté de faire le dîner des centenaires, ils n'avaient pas de salle assez grande. Je pense que c'est une blague. Mais quand vous regardez les courbes des centenaires, c'est très très impressionnant comme elles explosent. Et nous, on le voit bien dans notre patientèle, on a de plus en plus de nonagénaires et de centenaires. Et donc ce vieillissement de la population pose bien entendu un certain nombre de soucis dans l'organisation des soins. Il y a un autre élément qui est la démographie des professions de santé, qui va K1, K1, comme vous le savez. En ce moment, on hurle partout qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes, alors qu'on a une moyenne qui est plutôt satisfaisante au niveau européen. Les infirmières, on ne sait plus où les mettre. Les sages-femmes, il y en a dans toutes les communes. Et d'autres professions encore qui sont soit en baisse, soit en hausse. Mais c'est un peu la panique au niveau des démographies. Comme il y a une liberté d'installation pour un certain nombre de professions, on se retrouve sur les territoires avec des espèces de tensions dans un sens ou dans l'autre qui sont assez complexes. Et puis, vous avez une augmentation de ce qu'on appelle les polypathologies. Dans le temps, les gens, quand ils venaient au cabinet, c'était pour une pathologie souvent aiguë, puis ils n'en avaient qu'une à la fois, quoi. Aujourd'hui, ils ont le culot d'arriver avec 3-4 pathologies, quand il n'y en a pas 8 d'un coup, quoi, dans la même consultation. Et on voit sur des courbes qui sont très, très impressionnantes de l'augmentation du nombre de pathologies en fonction de l'âge, qui fait que quand on a quelqu'un qui vient au cabinet, ça devient de plus en plus compliqué de le gérer tout seul. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près entre 10 et 15% des patients qui vont être ce qu'on appelle des patients complexes. Complexe, ça veut dire que ça nécessite l'intervention de plusieurs professionnels de santé parce qu'ils n'ont pas qu'un problème organique, mais ils ont bien entendu un autre problème qui peut être psychologique, qui peut être psychiatrique, qui peut être social, qui peut être même environnemental. ou qui peut être, bien entendu, relatif au travail. Moi, j'exerce particulièrement dans une zone qui n'est pas loin d'une plateforme de logistique. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait 2 ou 3 conflits au travail qui nous nécessitent des interventions, qui sont des interventions en coordination, bien entendu, avec la médecine du travail, mais aussi avec le kiné, avec l'infirmière, le psycho, etc., etc. Et ces 10 à 15% de patients, ils occupent quasiment 50% du temps des soins primaires. Ça aussi qui est très troublant, c'est que la plus grosse activité maintenant dans les équipes de soins primaires est devenue centrée sur ces patients qui sont des patients très lourds, très complexes, qui nécessitent un véritable travail d'équipe autour de ces patients. Donc on est confronté à ces nouveaux enjeux en soins primaires. Et comme on y est confronté, on sait que bien sûr en France on a les meilleurs médecins du monde, ça va de soi. Et je crois qu'en plus c'est pas complètement faux si on reste sur la notion simplement du savoir. C'est-à-dire que, même pour un généraliste, c'est 9 ans de formation, bientôt 10, parce qu'ils veulent rallonger encore une année de plus, ils vont être contents, les étudiants. Et bien entendu, qu'on a des médecins qui sont d'une qualité irréprochable. Ils ont même un concours à la fin des études qui s'appelle l'ECN, qui leur permet de briller et de choisir les meilleurs postes. On a une médecine qui est de qualité, si on la regarde sous ce jour-là. Mais en même temps, et bon, les collègues professionnels qui sont ici le savent, on a une formation qui ne prépare pas du tout aux enjeux actuels. Pourquoi ? Parce que ce qu'on nous apprend, nous, à l'université, c'est « Écoute, Coco, tu vas avoir un patient en face de toi. Alors, un, tu fais un interrogatoire. 2, tu fais un diagnostic. Puis, diagnostic, maintenant, c'est vachement simple, hein, parce qu'on a Internet sous la main, donc il suffit de cliquer. On le trouve facilement. Ensuite, tu mets en place une thérapeutique. Et puis, si tu n'oublies pas, tu poses un pronostic. » À l'université, ils ont même oublié, mais ça, on le découvre très vite sur le terrain, parce que nous, on est des libéraux, que la dernière étape, c'est qu'il faut encaisser la consultation. Ça va de soi, parce qu'ils ne sont pas tous en tiers payants. Mais par contre, il n'y a strictement rien dans la formation sur le travail en équipe. C'est-à-dire que ça reste dans une formation d'un entretien duel avec un patient. Et à aucun moment, on va nous dire tiens, puis il faudra peut-être que tu te coordonnes avec l'infirmière ou avec le service social sur ce sujet-là, parce qu'il y a certainement des informations. Peut-être aller papoter avec le pharmacien, parce que les pharmaciens, ils ont toujours les oreilles qui traînent dans les villages. Ils ont plein d'informations qui pourraient t'aider à mettre une stratégie en place. Il n'y a rien du tout là-dessus. À tel point que le plus drôle, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la loi de modernisation de la santé, du système de santé, il y a un article de loi qui, dorénavant, oblige qu'on s'écrive, au cas où on avait oublié que c'était possible, quoi. Donc pour que le législateur en arrive à dire, bon, on va les obliger maintenant légalement à écrire, donc je vous signale que la prochaine fois que vous ne m'écrivez pas pour un patient, moi je vous envoie le GIGN ou en tout cas la gendarmerie locale, quoi, parce que franchement, aujourd'hui, la loi, c'est on doit s'écrire. Alors c'est dans les deux sens, hein, parce que bien entendu, vous recevez des patients qui n'écrivent pas. Les gens ont oublié de s'écrire. Et vous avez effectivement une problématique qui est liée à cette formation. C'est je suis formé pour faire un diagnostic et une thérapeutique, mais à aucun moment je suis formé pour me dire j'accompagne ce patient dans la durée, sur le longitudinal, et donc je ne sais pas comment il faut que je m'y prenne. Le deuxième élément, à part cette histoire de formation, c'est qu'on est face à une profession de santé sur les territoires en soins primaires, de professionnels qui n'ont pas pris le virage du 21e siècle. Ils n'ont pas pris le virage des TNTIC, ils n'ont pas pris le virage de la modernité. Je vous donne un exemple comme ça. 100% des pompistes prennent la carte bleue. 95% des restaurateurs. Un tiers des médecins. Autre exemple. Vous avez un chat. Je suis sûr que votre véto, il vous écrit chaque fois qu'il y a un vaccin à refaire. Est-ce que votre médecin vous écrit ? Moins de 5% des structures de soins en France écrivent aux patients quand il y a quelque chose à refaire en termes d'examen de dépistage. Autre exemple. Médecine générale. Professionnels qui gagnent en moyenne 7 000 euros net avant impôts par mois, ça les met au-dessus du besoin, ils n'ont pas de soucis quand ils font leurs courses. 15% font le ménage le soir dans leur cabinet. Vous imaginez dans une entreprise de dire à un cadre supérieur, mon coco, pour le ménage, on n'a pas de femme de ménage, tu prends le balai le soir et puis tu vas faire le ménage. C'est inconcevable. Donc on voit bien qu'on est face à une profession qui a eu de grandes difficultés en fait, à prendre ce virage de la modernité. Et ça, c'est un enjeu actuel qui existe pour la profession, parce que vous imaginez que quand les professionnels de santé font le ménage, ils ne prennent pas du temps pour soigner obligatoirement leurs patients. Alors heureusement, il y a la société civile qui bouge. Et puis vous avez des professionnels de santé qui se sont saisis de tout ça. Aujourd'hui, en France, ça c'est le côté optimiste, vous avez des tas de structures de soins primaires qui existent et qui sont des structures de soins primaires où les gens ont pris le virage de la modernité, où ils travaillent de manière coordonnée, en équipe, et qui peuvent devenir des professionnels de santé qui favorisent l'accessibilité aux soins, qui favorisent aussi, bien entendu, la qualité, parce que quand les professionnels se parlent, la qualité, elle monte, et puis qui favorisent aussi parfois des économies, parce que quand ils se causent, ils prescrivent de moins en moins, et ça, c'est assez troublant. Et on a deux modèles en France, enfin, modèle c'est un grand mot, on a deux types aujourd'hui dans l'organisation réglementaire française qui existe. La première c'est ce qu'on appelle les centres de santé, qui existent depuis après-guerre, qui est une un mouvement dont Emmanuel Vigneron pourrait vous parler beaucoup plus longuement, et je parle sous son contrôle, parce qu'il a fait un gros travail là-dessus, et il connaît très bien ce sujet-là, qui sont des structures de soins pluriprofessionnels, dans lesquelles les professionnels de santé sont salariés, et qui avaient vu le jour à l'origine plutôt dans des secteurs défavorisés, comme des banlieues, des grandes villes, mais qui sont en train de s'étendre progressivement, parce que, comme vous le savez, chez les jeunes générations, il y a un certain nombre de gens qui préfèrent le travail salarié que le travail de type libéral. Aujourd'hui, il y a à peu près 450 centres de santé pluriprofessionnels. Il y en a beaucoup plus en centres de santé infirmiers, centres de soins dentaires, centres d'imagerie, mais il y a à peu près 450 centres de santé. Et puis depuis 2005-2006, on a vu l'éclosion aussi dans le secteur libéral d'une nouvelle manière d'appréhender la gestion des patientèles, et ça s'appelle des maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, on en a largement plus de 1000 en France, qui sont répartis de manière relativement hétérogène sur le territoire français. Et dans ces structures-là, on observe un certain nombre de choses. Le premier, c'est le passage du travail isolé vers un travail pluriprofessionnel, et bien entendu qui facilite l'échange entre les professionnels. On met une cafetière et une cantine, enfin une cantine, une salle de réunion où on peut déjeuner à midi, et tout à coup, les gens se mettent à parler, puis ils se mettent à parler non pas que de leurs vacances ou de leurs soucis personnels et familiaux, mais ils se mettent aussi à parler, bien entendu, des patients. Et on voit la qualité qui tirait vers le haut. Ça a été démontré, ça, dans une étude que je pourrais vous citer. Passage du travail isolé au travail en équipe, et puis passage aussi du logiciel métier à un système d'information qui est en fait un dossier patient électronique. Aujourd'hui, dans les structures, dans ma structure par exemple, tous les professionnels de santé ont accès au même système d'information sur lesquels on trouve le dossier électronique du patient. Il a fallu faire évoluer la loi dès 2011 sur cet aspect-là, et encore dans la loi de modernisation de notre système de santé, pour y arriver. Mais aujourd'hui, en libéral, vous avez des équipes qui sont véritablement l'équivalent des établissements de soins et dans lesquels l'échange peut se faire. Et puis vous avez un autre élément qui est l'évolution aussi d'une espèce de manière d'exercer la médecine, non plus comme un art, mais comme quelque chose qui s'entend avec les autres professionnels à travers ce qu'on pourrait appeler des protocoles de soins en équipe. L'objectif, c'est que quand le patient aborde des professionnels de santé, c'est qu'il entende un message qui soit relativement homogène dans l'équipe, pas dans le genre « tiens, j'ai un labago aujourd'hui, je vais voir le toubib », il met une ceinture lombaire et il me prescrit de la kiné. Je vais voir le pharmacien qui me dit « Non, il vous a mis cette ceinture, mais je vais vous en mettre une autre parce qu'elle est vachement mieux. » Ça commence à paraître louche. Et quand je vais voir le kiné, il dit « Surtout, mettez pas la ceinture lombaire. Vous êtes fou, vous allez vous démuscler. » Et ça, des espèces de messages qui sont complètement, parfois contradictoires pour les patients, c'est assez fréquent. Alors que dans ces équipes, chaque fois qu'on aborde une problématique de pathologie, on travaille ensemble de telle manière que le patient reçoive tout le temps le même type de message. Et puis enfin, dernier point, mais qui est assez aussi important pour nous, c'est on sort du tout paiement à l'acte pour entrer dans des modes de rémunération qui sont forfaitaires et qui sont forfaitaires d'équipe. C'est-à-dire que ces équipes-là, si elles passent un cahier des charges en termes de qualité, d'organisation, etc., elles perçoivent une dotation annuelle qui leur vient de l'assurance maladie dans le domaine conventionnel et qui leur permet de payer un certain nombre d'éléments et entre autres d'embaucher un poste de coordination pour aider à tout ce travail. Aujourd'hui, si vous prenez centre de santé et maison de santé, centre de santé où les professionnels exercent en mode salarié avec des administratifs, ou que vous preniez les maisons de santé où les professionnels de santé travaillent en libéral et sont en train de se chercher en termes d'organisation interne, on peut dire qu'il y a 15% des professionnels en France qui travaillent dans des structures de ce type-là. Et ça fait que 10 ans que ça a commencé. Or, les centres de santé qui existaient bien avant, bien entendu, depuis l'après-guerre. Aujourd'hui, les maisons de santé augmentent très nettement, les centres de santé augmentent aussi. Et 15% des professionnels, quand je vous dis 15, le temps que je vous dis 15, on est déjà à 15,1, 15,2, 15,3, parce que des inaugurations, il y en a en permanence. Et donc ça veut dire que pour vous qui travaillez dans des hôpitaux, l'apparence des soins primaires va nettement évoluer dans les années qui viennent. Et au lieu d'avoir des relations qui sont actuelles, souvent avec un professionnel de santé qui est le médecin traitant du patient, vous allez avoir des relations de plus en plus avec des équipes de soins, qui seront peut-être même à l'avenir des équipes de soins traitantes, qui sont des équipes de soins organisées en fait, sur le territoire qui concerne le patient. Et pour accompagner cette évolution-là, on prépare en ce moment, au sein de la fédération que je dirige et des sociétés qu'on a mises en place, un véritable accompagnement. Parce qu'on sait, vous savez ça, que quand on arrive à 20% d'une population, en général, ça commence à bugger parce qu'on sort de tous les innovateurs, les initiateurs, les premiers leaders. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver sur le noyau dur de la profession. Et donc, on a développé un certain nombre d'outils pour continuer ce mouvement. Et je ne désespère pas qu'il se poursuive, comme il se poursuit d'ailleurs dans d'autres pays. On regarde beaucoup, on est en lien avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans d'autres pays où, qui suivent la même type d'évolution. Alors tout ça, c'est voilà, ce qui se passe sur le terrain de manière assez brève, assez rapide. Hein, on pourra revenir sur des questions plus précises si vous voulez. Et le politique dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Politique, il fait comme d'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, soit d'une manière assez cynique, il suit ce qui se passe dans la société civile, puis s'il trouve que c'est pas mal et puis que ça dépasse les 20%, il fait passer quelques textes de loi en disant bah, on va vous filer un coup de main, quoi, on va vous appuyer là-dessus. Soit il accepte des adaptations parce que le lobbying qu'on mène est bien mené intelligemment et qu'il accepte de passer quelques articles s'il n'y a pas d'opposition trop formelle sur ces éléments-là et qu'on arrive en commission mixte paritaire à faire passer quelque chose. Et puis quelquefois il propose. Et quand il propose, ben, il peut proposer des choses qui sont intelligentes. Donner un exemple, c'est ce qu'on appelle les CESP, un truc intelligent, parce que c'est des contrats d'exercice en soins primaires qui font que des jeunes font leurs études, mais sont rémunérés pendant leurs études. Ils touchent un équivalent de SMIC, je crois, quelque chose comme ça. Et à la fin de leur étude, ils prennent un engagement vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'État, de s'installer préférentiellement dans des zones qui ont vraiment besoin de médecins. C'est quelque chose qui marche assez bien et qui rend service à des jeunes qui font des études et qui n'avaient peut-être pas les moyens de se les payer, parce qu'ils accèdent parfois secondairement après un métier dans les études médicales, par exemple. Et puis ça aide, bien entendu, à l'installation sur des territoires. Puis il y a d'autres choses qui marchent moins bien, qui sont parfois des histoires, comme beaucoup, les primes d'installation dans des territoires déserts, ça, qui sont beaucoup plus souvent des primes d'opportunité. Il faudra peut-être du temps pour regarder si ça a servi à quelque chose, mais on peut avoir des regards assez critiques sur ces éléments-là. Vous avez vu que dans la loi, depuis plusieurs années, il y a une véritable réflexion qui s'est faite sur le virage ambulatoire. Et vous avez eu des tas de groupes de travaux, il y a eu des missions, il y a eu des comités, il y a eu des commissions, il y a tout ce qu'on veut, quasiment depuis 2010, 2011, 2012. Vous avez eu tous les travaux du HCAM, du Haut Comité pour l'Avenir de l'Assurance Maladie, qui ont été des travaux très intéressants et qui ont procuré une espèce de réflexion d'évolution. Vous avez eu le fameux Comité des Sages qui a duré ce qu'il a produit et qui a aussi produit un certain nombre d'éléments. Toutes ces choses-là ont abouti à un moment donné à une stratégie nationale de santé qui a été publiée fin 2013, et puis ensuite à différents éléments dans les lois de financement de sécurité sociale pour arriver à la fameuse loi de modernisation de notre système de santé en janvier de cette année. Alors, côté soins primaires, il y a eu des tas d'initiatives. C'est un peu compliqué, puisqu'il y a eu des initiatives qui étaient parties des usagers, qui ont été récupérées par les professionnels. Il y a eu des initiatives parties de la représentation des professionnels qui aboutit, d'autres choses qui n'ont pas abouti. Et on voit se dessiner dans la loi, pour les soins primaires, des trucs assez bizarres. On verra si ça sert à quelque chose, si ça passe dans les oubliettes de l'histoire. Il y a quelque chose qui s'appelle les équipes de soins primaires, donc ça s'appelle ESP, équipes de soins primaires, dans lesquelles vous mettez les centres de santé, les maisons de santé, ou des gens qui se réunissent autour d'un projet quelconque, etc. Vous avez ensuite des objets aussi qui s'appellent des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. L'idée, c'est que sur un territoire beaucoup plus large, les professionnels se réunissent et puis discutent de, tiens, est-ce qu'on a des problèmes sur la filière de soins avec l'hôpital psychiatrique du secteur? Est-ce qu'il faut qu'on les rencontre pour en papoter ou en discuter? Ou est-ce qu'on a des gros soucis sur le suivi de nos diabétiques parce que le diabéto du coin, il ne veut plus prendre de nouveaux patients avant 6 mois, etc., etc. Et puis, vous avez encore autre chose qui s'appelle les PTA, qui sont les plateformes territoriales d'appui, qui sont des éléments qui vont se mettre en place sur les territoires si les gens dans les soins primaires en ont besoin et qui sont censés aider les professionnels, surtout ceux qui sont isolés, sur l'accompagnement autour de professionnels, de patients qui sont dans des situations complexes. Donc vous avez plein de trucs, ça bouge. On a l'impression d'une espèce d'effervescence. On ne sait pas trop ce qui va en rester puisque la loi essaye de coller à ce qui existe sur le territoire. Elle essaie aussi de coller à la demande de certains qui ne va pas toujours aboutir à ce que le territoire va faire. Et puis récemment, il y a eu un truc tout de même intéressant qui n'a rien à voir avec la loi, mais on a eu la semaine dernière la création d'une fédération des soins primaires en France et qui réunit des tas de gens qui travaillent autour des soins primaires. Fédération des centres de santé, fédération des maisons de santé, un certain nombre de syndicats professionnels et qui montre bien que chez les professionnels de santé de l'ambulatoire, il y a une véritable réflexion qui se passe sur la nécessité d'avancer. Alors côté de l'article 69, intéressant cet article 69 pour les gens des soins primaires. Parce que vous savez comme moi la grande difficulté qu'il y a toujours eu de relation, et vous en parliez tout à l'heure, entre les soins primaires et les hôpitaux psychiatriques, puisqu'on était dans cette tendance où, en quelque sorte, je vois un patient schizophrénique, où là, je m'embête pas, je décroche même pas le téléphone, parce que sinon, on fera discuter, je lui fais un bon rentrée, et hop, il se retrouve au service des urgences, et il va bien arriver quelque part là-bas chez eux, et c'est pas trop mon souci de savoir comment ça va se passer, quoi. Je vous le fais grossier, quoi. Et puis à l'inverse, une fois qu'il est soigné, il ressort, je reçois un courrier 15 jours plus tard. Et c'est la famille qui me prévient d'ailleurs qu'il était sorti il y a 15 jours et qu'entre temps il s'est passé je ne sais pas combien de problèmes parce que personne n'était au courant. Bon, c'est grossier, mais c'est tout de même assez proche de la réalité comme vous le savez. Pourquoi ? Parce qu'on travaille chacun sur notre métier, complètement concentré sur nos objectifs propres et qu'on a une grande difficulté à créer ces espèces de liens autour des patients qui devraient exister. Donc l'article 69, on peut dire que c'est quelque chose je pense, d'assez intéressant, puisque on dit que les diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte, entre autres, des projets des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé. Moi, je pense qu'il faut effectivement se saisir de cet article de loi pour commencer sur les territoires à réfléchir ensemble et à se mettre autour d'une table entre les soins primaires et les hôpitaux psychiatriques autour de la santé mentale pour réfléchir, quoi. Et pour réfléchir sur ce qu'on peut faire de mieux, et que ça soit aussi corrélé, bien entendu, au projet de chacun, quoi. Pas que quelqu'un arrive avec un projet sur un territoire, dans le genre, par exemple. Je vous parlais des vaccins tout à l'heure. Chez nous, on fait de la relance vaccinale par courrier depuis des années, avec mes collègues. On a 90% de la population sur notre territoire qui a un jour de vaccination antitétanique. Parce que les gens, quand ils reçoivent un courrier tamponné du docteur, en général, ils l'ouvrent. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. Et quand ils y trouvent une relance pour un vaccin et une incitation à aller chez l'infirmière, en général, ils le font. Et bien, le service d'infectiologie de l'hôpital a installé un jour dans la commune un centre de vaccination. Sans se préoccuper de ce qui se passait sur ce territoire pour savoir s'il y avait quelque chose. Donc, bien sûr, que leur centre de vaccination, au bout de 3 semaines, il était fermé, parce que comme tous les gens étaient à jour de vaccin, il n'y avait pas de raison de voir des gens se faire vacciner là, quoi. Donc, cet exemple-là, il montre bien qu'on a vraiment du boulot à faire, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance aussi assez remarquable entre les projets hospitaliers et les projets des équipes de soins primaires qui sont constituées, et qu'il y a du boulot. En même temps, ce boulot, il s'inscrit dans cette évolution des soins primaires que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous êtes face. Encore aujourd'hui, probablement à 85% de soins primaires qui ne sont pas très bien organisés, qui vont s'organiser progressivement, et 15% de soins primaires qui sont très organisés. Je pense que c'est sur cette portion-là qu'il va falloir commencer. Alors, dernier point, c'est les perspectives. C'est un peu ce que je veux dire, parce que d'abord, c'est la communication, quoi. La communication, c'est pas top aujourd'hui. Moi, je suis très, très vexé en tant que professionnel de santé de voir le législateur nous obliger à nous écrire, quoi. C'est invraisemblable, tout de même, cette histoire-là. On se dit, si on en est arrivé à ce point-là, quand même, quoi. Donc il y a cette communication-là, surtout à l'époque où les réseaux sociaux fonctionnent à fond, on peut se demander pourquoi elle ne fonctionne pas mieux, quoi. Pourquoi un patient qui sort d'un hôpital, le courrier n'est pas déjà en électronique dans son dossier des soins primaires. Et un patient qui va à l'hôpital ou qui a une nécessité d'un avis, comment ça se fait que l'équipe de soins primaires, elle n'ait pas eu en contact direct le psychiatre du patient pour savoir si c'est une modulation de traitement qu'il faut faire ou si c'est une hospitalisation en urgence. Donc je pense que cet élément de la communication, dans tous les systèmes de santé qui évoluent, la communication et les protocoles, c'est vraiment les deux éléments essentiels qui mettent en route une nouveauté dans le système. Et puis, bien sûr, qu'il y a les nouveaux outils, quoi. Moi, je rêve, vous imaginez ? Je vois Sébastien, il arrive. Sébastien, il est schizo, quoi. Et aujourd'hui, il me raconte des délires sur la Lune, quoi. Je vois bien qu'il ne va pas bien. En plus, la mère, elle m'a appelé avant. Elle m'a dit, docteur, faites quelque chose. C'est insupportable. Qu'est-ce que je fais, là ? J'hésite. Est-ce que j'augmente un peu ses neuroleptiques ? Est-ce que franchement, là, ça nécessite une hospitalisation ? Je connais son histoire, Sébastien, mais je me méfie parce que la dernière fois que c'est passé comme ça, ça s'est pas très très bien fini, quoi. J'ai besoin d'un avis psychiatrique, quoi. Est-ce qu'il faut que je le mette dans un taxi qui fasse 40 km pour aller voir quelqu'un au centre d'accueil de l'hôpital psychiatrique ? Ce serait tellement facile de se mettre sur Skype, bon, Skype sécurisé, hein, de se faire un petit coup de télémédecine. Allô, psychiatre du secteur, il est disponible ? Ouais, dans 3 quarts d'heure. Bon, je fais attendre Sébastien et dans 3 quarts d'heure, on se met en ligne. 3 quarts d'heure après, on se fait une consulte à 3, quoi. Ce serait génial, ça. Et j'ai un avis. Soit il me dit, non, écoute, augmente un peu ses neuroleptiques, ça suffira comme ça, quoi. Soit il me dit, ah non, attends, t'appelles une ambulance, tu me l'envoies. Parce que... Et moi, j'ai besoin d'expertise par moment dans mon exercice. Et que ces expertises, on devrait pouvoir, si on avait des organisations de deux côtés, qui soient des organisations qui tiennent compte de ces possibilités. Alors, ce n'est pas des trucs que je vais vous faire 2 fois par jour, bien entendu. C'est des choses qui vont se passer peut-être 1 fois par semestre. Mettons peut-être 3 fois par an au maximum. Mais en tout cas, je pense qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on pourrait très, très nettement améliorer tout ce qui est le parcours des patients dans ce secteur-là. Et puis, dernier point, puisque la loi nous y invite, les projets territoriaux de santé mentale, faites signe, appelez, regardez sur le site des 2 fédérations, des maisons de santé, des centres de santé, regardez ce qui existe dans votre territoire, mais les représentants de nos 2 fédérations et de la future fédération des soins primaires seront bien entendu très très intéressés pour participer à ces projets territoriaux de santé mentale pour développer tout ce que nous propose l'article 69 dans l'avenir. Voilà, Pascal, ce que je pouvais dire de manière assez rapide et synthétique.
Merci pour cette présentation. Vous êtes parfait au niveau du timing et pour le contenu, évidemment, aussi, j'imagine. Donc, on peut s'autoriser quelques minutes de questions-réponses. Je vous invite à vous installer là, ce sera plus confortable pour vous, d'autant plus que les prochains intervenants vont venir s'installer à côté de vous.